Œuvre complète de Flavius Joseph traduite en français sous la direction de Théodore Reynage Chantiquide Judec livre 1 X, traduction de Julien Way livre 11 XV, traduction de Joseph Chamonard livre 16 XX, traduction de G. Mathieu et L. Hermann Paris, Ernest Leroux, 1900-1905. Publication de la Société des études juives, texte numérisé et mis en page par François-Dominique Fournier pour le site de Philippe Remacle, http://remacle.org/bloodwolf/historien/flageose/intro.htm. Correction, ajout de la numérotation Louette pour les trois livres 7, 9 à 10, 12 à 14, et ajout de titre par Timothée Minard, décembre 2016. http://timothéeminard.com/remarque sur la présente édition numérique, les numéros entre crochets correspondent à la numérotation dite Loeb. C'est cette numérotation qui est aujourd'hui universellement utilisée. Oh, cette numérotation est complète pour les deux livres, 8 et 15 à 20. Oh, pour les 1 livres, 3 à 7 et 9 à 14, ne sont signalés que les numéros correspondant à chaque début de paragraphe. Cette numérotation partielle permet tout de même de retrouver aisément un passage de l'œuvre. Pour des raisons techniques, les notes de l'ouvrage initial n'ont pas pu être intégrées. Elles sont consultables sur le site de Philippe Remacle. Malgré sa bonne qualité générale, le texte du site de Philippe Remacle contenait de nombreuses coquilles liées à la numérisation et à la reconnaissance des caractères. Un bon nombre de ces coquilles ont été corrigées par nos soins grâce à l'aide de correcteurs orthographiques. Toutefois, ne pouvant pas relire entièrement le texte, il est probable que certaines aient échappé à notre vigilance. Timothée Minard, décembre 2016. Cette édition est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution, pas d'utilisation commerciale 4.0 internationale. Vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier librement, à condition de faire référence à son auteur, Timothée Minard, et à ne pas en faire un usage commercial, revente interdite. Avant-propos, si l'on mesure la valeur d'un historien au nombre et à l'importance des informations dont on lui est redevable, il est peu d'historiens qui puissent être comparés à Flavius Joseph. Son ouvrage le plus considérable, Les Antiquités judaïques, n'est, dans la première moitié, qu'un abrégé de la Bible à l'usage des lecteurs païens, abrégé rendu fade à notre goût par l'abus d'une rhétorique banale, le manque de naïveté, sinon de foi, l'absence de sentiment poétique, mais on y remarque avec intérêt les tendances rationalistes d'une exégèse qui s'oppose curieusement à l'exégèse allégorique, presque contemporaine, de Philon. De plus, l'insertion discrète de traits légendaires, étrangers à l'écriture et empruntés à la tradition orale, nous montre comme le début d'un genre littéraire qui devait prendre un si riche développement dans la partie agadique du Talmud et dans le Midrash. Les 10 derniers livres de cet ouvrage constituent, surtout à partir de l'époque des rois Asmonéens, un document historique de premier ordre. À défaut de sources juives, qui manquaient pour cette période, Joseph a soigneusement dépouillé tous les historiens grecs et romains qui pouvaient lui fournir, même en passant, des données sur les faits et gestes du peuple juif. Comme ces historiens sont perdus, son ouvrage comble ainsi une lacune qui serait autrement irréparable. Dans l'histoire d'Hérode, où Joseph suit de très près les mémoires de Nicolas de Damas, secrétaire de ce roi, dans celle des 70 années suivantes, sur lesquelles il a pu recueillir des renseignements de la bouche des contemporains, les antiquités acquièrent presque la valeur d'un document original. Elles intéressent au plus de gré non seulement l'histoire juive, mais l'histoire romaine et celle du christianisme naissant, quoique Joseph y fasse à peine une allusion fugitive. Sans lui, comme on l'a dit, le milieu historique où le christianisme a pris naissance, ce qu'on appelle en Allemagne la Zeitgeschichte de Jésus, serait impossible à reconstituer. Son second grand ouvrage, le premier par ordre de date, est La guerre judaïque, l'histoire de la formidable insurrection de 66 à 70 après J, c'est où succomba définitivement l'indépendance de sa patrie. Il y raconte presque jour par jour les événements auxquels il fut mêlé lui-même, tantôt comme acteur, tantôt comme spectateur. Si l'on peut quelquefois suspecter son impartialité, s'il exagère volontiers les chiffres, si, par une prudence naturelle mais excessive, il a systématiquement rabaissé les patriotes qu'il avait compromis et exalté ses bienfaiteurs, Vespasien et Titus, on ne peut mettre en doute ni la compétence du narrateur, ni la véracité générale de la narration. Or, ce récit, qui se recommande aux spécialistes par l'abondance et la précision des détails relatifs aux opérations militaires, est en même temps le tableau, émouvant par sa froideur même, d'une des plus tragiques catastrophes nationales que l'histoire ait enregistrée. Ce journal de l'agonie d'un peuple, c'est quelque chose comme le second livre de l'Énéide, sorti, non de l'imagination d'un poète, mais des souvenirs d'un témoin bien informé. Plus d'un qui a relu ces pages pendant l'année terrible, au milieu des angoisses du siège de Paris et de la Commune de 1871, il a retrouvé comme une image anticipée des hommes et des choses d'alors, avec cette atmosphère fièvre obsidionale qui engendra tant d'héroïques dévouements et d'aberrations criminelles. L'autobiographie forme comme un complément de la guerre judaïque. Ce sont les mémoires piquantes d'un général d'insurrection malgré lui, auquel peut s'appliquer le mot éternellement vrai de la comédie, « Je suis leur chef, il faut que je les suive ». Seulement Joseph ne les a pas suivis jusqu'en bout. Le quatrième et dernier ouvrage de Joseph, La défense du judaïsme connu sous le titre impropre de Contrapion, n'est pas le moins précieux. L'auteur, arrivé à la pleine maturité de son talent, s'y révèle polémiste ingénieux, apologiste souvent éloquent, il nous initie au procédé de discussion des judéophobes d'il y a 18 siècles, si semblables à ceux des antisémites d'aujourd'hui. Enfin, dans son zèle de prouver l'antiquité du peuple juif par le témoignage des auteurs païens eux-mêmes, il reproduit de longs extraits, infiniment curieux des historiens grecs qui avaient encore en à leur disposition les annales sacerdotales de l'Égypte, de la Chaldée et de Tyr. Joseph a ainsi préservé de la destruction quelques pages de l'histoire de ces vieilles monarchies, englouties dans le naufrage de la littérature alexandrine, c'est un service qui lui mérite la reconnaissance durable des orientalistes, comme par ses autres ouvrages il s'est acquis celle des historiens de la Judée, de Rome et du christianisme. L'auteur de ces quatre livres ne fut, malgré ses prétentions, ni un grand écrivain ni un grand caractère, mais il reste un des spécimens les plus curieux de la civilisation judéo-grecque, dont le type accompli est Philon, il offre aussi un merveilleux exemple de la souplesse du génie israélite et de ses puissantes facultés d'assimilation. Son œuvre, qui ne paraît pas avoir atteint auprès des païens son but apologétique, méritait de survivre. Négligé par les juifs, qui ne s'intéressaient pas à l'histoire et voyaient dans l'auteur un demi-renégat, c'est à l'Église chrétienne qu'elle doit d'être parvenue jusqu'à nous. Les pères de l'Église citent fréquemment Joseph et l'Interpol quelquefois, les clercs du Moyen-Âge le lisaient, sinon dans le texte original, du moins dans la traduction latine exécutée par ordre de Cassiodore et dans un abrégé grec des Antiquités qui paraît daté du Xe siècle. L'analyste du peuple élu, le titre live grec, comme l'appelait Saint Jérôme. Mais si bien l'historien par excellence que sa renommée finit par retentir jusque chez ses anciens coreligionnaires, au Xe siècle une chronique légendaire de l'histoire israélite jusqu'à Titus se recommande de son nom, c'est le Josipon, rédigé en hébreu par un juif d'Italie. Avec la Renaissance on revint au texte intégral et de nombreuses traductions le popularisèrent dans toutes les langues modernes. Il fut un temps où toute famille un peu lettrée possédait sur les rayons de son armoire à livres, à côté d'une Bible, un gros Joseph in folio, agrémenté de nombreuses vignettes où se déroulait toute l'histoire du peuple saint depuis l'expulsion d'Adam et d'Ève jusqu'à l'incendie du temple par les soldats de Titus. De nos jours, sauf les savants, on lit beaucoup moins Joseph, la substance de ses écrits a passé dans des ouvrages modernes facilement accessibles, la source est négligée et c'est un tort. Il serait trop long de rechercher toutes les causes de ce discrédit, mais l'une des plus importantes en notre pays c'est assurément l'absence d'une traduction française satisfaisante. Sans parler des informes tentatives du XVe et du XVIe siècle, il existe dans notre langue deux versions complètes de Joseph. L'une, celle d'Arnaud d'Andigny, 1667-9, a dû au nom de son auteur et à un certain charme janséniste de style la faveur de nombreuses réimpressions, ce n'est pourtant qu'une belle infidèle, beaucoup plus infidèle que belle. L'autre, celle du père Louis-Joachim Gillet, 1756-7, est un peu plus exacte, mais beaucoup moins lisible. Il nous a semblé que le moment était venu d'offrir au public français une traduction nouvelle, qui fut vraiment l'équivalent du texte original. L'entreprise vient il son heure, au moment où ce texte, fort défiguré par les copistes, a été sensiblement amélioré par le grand travail critique de Nise, Berlin, 1887 suive. C'est son édition qui, naturellement, a servi de base à notre traduction, ce sont ses paragraphes, à numérotage continu, si commode pour les citations, qui figurent dans nos manchettes. Toutefois nous ne nous sommes pas astreints à une reproduction servile du texte de Nise, lui-même, par l'abondant apparat critique placé au bas de ses pages, nous a souvent fourni les éléments d'une leçon préférable à celle qu'il a insérée dans le texte, d'autres fois nous avons suivi l'édition plus récente de Nabé, Leipzig, 1888 suive, qui offre un choix judicieux de variantes, dans des quatre erreurs nous avons eu recours à des conjectures personnelles. Une traduction complète de Joseph est une œuvre difficile et de longue haleine. L'auteur, qui a pris le grec tard et assez imparfaitement, écrit d'un style pénible, sa phrase, longue et lourde, chargée d'incises, de redites, d'ornements vulgaires, souvent peu claires et mal construites, n'est pas toujours aisé à comprendre et toujours malaisé à rendre. Que de fois un traducteur consciencieux doit sacrifier l'élégance à la fidélité. Nous nous sommes efforcés du moins de n'y jamais sacrifier la clarté. La tâche, décourageante pour un seul, a été partagée entre plusieurs jeunes savants qui nous ont apporté le concours de leur talent et de leurs connaissances spéciales. Chacun d'eux est responsable du volume qu'il a signé et des notes qu'il y a jointes. Toutefois, celui qui écrit sa ligne s'est réservé la direction et la revision générale du travail, et a marqué de ses initiales quelques notes dont il accepte la responsabilité exclusive. Les notes, celles des traducteurs aussi bien que du réviseur, ont été rédigées avec sobriété, elles ont pour but de lever ou de signaler certaines difficultés d'interprétation, de l'approcher des passages parallèles, mais surtout d'indiquer, chemin faisant, dans la mesure du possible, les sources premières de l'information de Joseph. C'est la première fois que l'historien juif reçoit ces éclaircissements indispensables, car les commentaires de l'édition d'Averkan sont en général plus prolixes qu'instructifs. On peut leur appliquer ce mot du philologue Boeck, qui convient à tant de commentaires de ce genre, si Uergeman nicht viel, nur das schwierige, ils ne mettent pas grand-chose, seulement ce qui est difficile. Notre traduction est calculée pour une étendue de 7 volumes, correspondant à peu près à celle de l'édition de Nice. Les antiquités en réclameront 4, la guerre judaïque, à laquelle nous rattachons, pour des raisons de fond l'autobiographie, 2, le 7e sera consacré au contrapion, au débris des historiens judéo-grecs antérieurs à Joseph, à un index général et peut-être il une étude d'ensemble sur l'œuvre et la vie de Joseph. La tâche, attaquée de plusieurs côtés à la fois, est déjà très avancée. Si quelques tâtonnements inévitables ont retardé l'apparition du premier volume, les autres se succéderont à des intervalles rapprochés, sans que nous croyions devoir nous astreindre à un ordre rigoureux. Puisse la faveur du public répondre à notre effort et le récompenser. Puisse Joseph redevenir, sinon un livre de chevet, du moins un ouvrage de fond, ayant sa place marquée dans toutes les bibliothèques sérieuses. Saint-Germain, 10 septembre 1900. Théodore Reinach.